Bling, 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 bling,
bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, voilà, continuez comme ça, n'en déplaise à tous vos les charognards et vos critiques. Car ce matin, j'ai entendu, même chez vous, là, que 4 pays qui le félicitaient, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Belgique. Franchement, on n'a pas à se plaindre de notre président. Voilà, alors je voudrais dire à M. Hollande, là, sa gueulante ce matin, vous devriez avoir honte. Le film de Bérégovoy samedi, franchement, on avait, c'est scandaleux, inadmissible. Franchement, vous voulez, hein, les Français, ils veulent avoir un menteur comme Mitterrand. Franchement, c'était la honte. Bon, j'ai été vraiment scandalisée. Alors, franchement, les socialistes, balayez devant votre porte. Parce que, franchement, avant de donner des leçons à l'UMP, balayez devant votre porte. C'était honteux, j'en étais. Oh, je trouvais ça vraiment inadmissible, inadmissible. Alors, félicitations, M. Sarkozy. Ne vous occupez pas des charognards qui vous critiquent. Vous êtes honnête, sincère, et celui qui n'est pas content, qui aille voir dans les pays communistes, là-bas, comment ça marche. Franchement, c'est inadmissible. Allez, les grèves, on va encore remettre ça sur les grèves. Allez, les grèves, ils n'ont rien à faire. Franchement, il y a des lois, ils doivent obéir aux lois. Alors, les professeurs qui sont payés, qui ont une place et qui font grève, c'est honteux, alors qu'il y a encore un peu de chômage. Honteux, inadmissible. Il faut les punir, ces professeurs-là. Il faut les expulser, qui donnent la place aux chômeurs, s'ils sont pas contents. Alors, monsieur le Pagua Thibault, là, il est un chauffeur. J'ai appris qu'il avait un chauffeur. Il a un chauffeur? Eh ben, alors là, franchement, c'est la dernière du tout. Il a un chauffeur, Thibault. Mais franchement... Alors, félicitations, monsieur Sarkozy.
62% des Français ne veulent pas que M. Sarkozy se représente en 2012. 62% des Français. Autre bonne nouvelle, je ne sais plus le pourcentage exact, mais c'est un grand nombre de Français également qui pensent que d'ici avant la fin du mandat de M. Sarkozy, eh bien, nous allons faire face à des crises majeures dans notre pays. Selon un pourcentage élevé de Français, je ne sais plus le nombre exact, je m'en excuse, mais... Il suffit d'écouter l'information pour avoir ces chiffres. Voilà, donc M. Sarkozy, je répète, 62% des Français aujourd'hui ne veulent plus de vous. Donc je me pose la question, à quand la démission, tout simplement? Hein, je pense qu'à un moment donné, on va pouvoir la demander, cette démission, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes amis.
Salut Mermet et salut à tous les AMG. Petite piqûre de rappel, le Repère d'Annecy se réunit pour la première fois mercredi 7 mai à 19h au bar Le Dersim, 22 route de Frangy, en face de l'usine SNR de Mété. Venez nombreux et bienvenue à tous. Salut à tous, bye.
Ah, bonjour à tous. Louis Schetzer est reçu ce matin. À la question qui lui est posée, trouvez-vous normal de toucher 7,7 millions d'euros sur ce que vous rapporte vos stock options de chez Renault par rapport aux autres qui manifestent pour l'usine Dacia, là, en Roumanie? C'est une affaire d'opinion qui nous répond, du con. Ouais. Et pour les autres, c'est une affaire de survie, ou alors de dignité, juste avant qu'on arrive au niveau de la survie. Faut un petit peu qu'ils y pensent, quoi. C'est écœurant de démarrer une journée en attendant des saloperies pareilles, sur des mecs qui sont vautrés sur des coussins bourrés de fric. C'est dégueulasse de démarrer une journée comme ça, quoi.
Ce qu'il y a de bien en Tunisie, c'est que les salaires sont tellement, tellement bas que les gens, ils sont obligés d'emprunter. Et quand ils ont emprunté, ils sont obligés de se soumettre au patronat. Et quand ils se soumettent au patronat, eh ben, le patronat, il les oblige à travailler. Et comme ça, la valeur travail est réhabilitée. Ce qu'il y a de vachement bien en Tunisie, c'est que quand on fait une manif, on fait un aller-retour dans la même rue. Comme ça, c'est transparent. On sait où ça se passe. C'est pas sauvage. Ce qui est bien en Tunisie, c'est que les théâtres sont contrôlés par le ministère de l'Intérieur. Un représentant du ministère vient voir, si ça lui plaît, il valide, si ça lui plaît pas, ben, tant pis. Ce qui est bien en Tunisie, c'est que les flics, quand tu grilles un rond-point ou tu grilles un feu rouge, ben, y a pas de paperasse, tu payes directement, tu donnes un billet, puis t'as pas de papier à signer, puis tu t'en vas. On évite comme ça. c'est un grand mal de la société française avec tous ces papiers. Ce qui est vachement bien en Tunisie, c'est quand tu te laisses pousser la barbe parce que t'as pas envie de te raser, bah t'es convoqué au commissariat. Puis quand tu te la coupes, t'es reconvoqué pour savoir ce qui s'est passé. C'est transparent. Ce qui est bien en Tunisie, c'est que le président, il a une très grande, une très très jolie maison. Et puis, ce qui est bien en Tunisie, c'est qu'on se sent protégé. Il y a la police un petit peu partout. C'est la sécurité qui est un peu réhabilitée. Ce qui est bien en Tunisie, c'est qu'il y a la photo de Ben Ali partout, comme ça. On n'est pas obligé de ne pas savoir qui c'est le chef. On sait, c'est l'autorité.
Aujourd'hui, l'espace des libertés progresse. Ce sont des signaux encourageants que je veux saluer. Et je ne vois pas au nom de quoi je me permettrai dans un pays où je suis venu en ami et qui me reçoit en ami de m'ériger en donneur de leçons.
Puis par contre, il y a un truc qui n'est pas bien en Tunisie, que je trouve vraiment pas bien, c'est que l'ambassade de France, elle est située sur la place de l'Indépendance.
Je suis depuis longtemps les éditions de Mermet, je les aime beaucoup. Il n'y a qu'une chose qui me choque quand on parle de la plus grande grève du siècle passé. Parce que je ne voudrais pas qu'on oublie celle de 36. J'ai 92 ans, alors excusez-moi de tenir ces propos, mais toutes mes amitiés, je suivrai Mermet jusqu'à la fin de mon combat, petit combat. Mais et j'admire beaucoup son émission. Elle est utile pour tous, surtout. Et encore plus pour les. Au revoir. Une biarrotte. Merci.
Merci pour ce message. Je ne sais pas effectivement des grèves de 68 ou de celles de 36, lesquelles furent les plus importantes. J'ai bien l'impression quand même qu'en nombre, au moins, celles de 68 ont été plus importantes en nombre et en durée. Mais il faudrait effectivement comparer. En tout cas, merci pour ce message où on hésite en dire jusqu'au bout de mon, on dit pas la vie, mais de mon combat. Merci à vous. Merci aux autres aussi, à tous ces messages et à ceux qui vont venir après dans un instant. Aujourd'hui, on est avec, comme chaque mois, avec l'équipe du Monde Diplomatique. Et aujourd'hui, on est avec Anne-Cécile Robert, avec Serge Halimi, avec Maurice Lemoine, avec Dominique Bayard et avec Pierre Daumé, le dessinateur Aurel. Pour une fois, on va faire parler le dessinateur. On va parler de ces pieds noirs qui sont restés en Algérie. On va parler de la question des céréales dans le monde, la spéculation sur les céréales. On va parler de la Bolivie et du référendum qui concerne Santa Cruz, qui est très préoccupant pour ceux qui se passionnent pour l'Amérique latine. Avec Halimi, Serge, on va parler FMI, FAIN, fin. FMI et la fin, ça fait des années que nous critiquons la politique de la Banque mondiale, du FMI et de l'OMC. Eh bien voilà, aujourd'hui on a des résultats particulièrement tragiques de ces politiques. C'est pas la seule raison, mais c'en est une. Et puis avec Anne-Cécile Robert, on se posera la question que beaucoup de Français se posent aujourd'hui. Que s'est-il donc passé le 6 mai 2007, il y a un an, avec ce titre quand même assez étonnant du Parisien aujourd'hui, l'homme de tous les records, Nicolas Sarkozy, record d'impopularité dans les sondages parmi tous les records. Voilà, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Auparavant donc, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base qui suit au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, j'aurais deux petites choses à dire par rapport à la situation des chômeurs et des emplois dits valables qui vont leur être proposés sous contrainte d'être radiés. Alors, les ANPE en France ne peuvent pas obliger un employeur à embaucher un chômeur. C'est l'employeur qui reste maître de l'embauche. Les ANPE, elles, ne peuvent que proposer des offres. Donc, où est l'arnaque ? À laquelle, il faut le dire, participent les syndicats réformistes. Quand le chômeur aura reçu plusieurs réponses négatives à ses candidatures, il sera alors considéré comme inapte au travail et ainsi il sera radié. Ça fera un chômeur en moins. La France prend l'exemple sur l'Angleterre. En Angleterre, le chômage actuellement est de 5%. Mais dans ces 5% ne sont pas comptés 2 millions d'inaptes au travail, c'est-à-dire d'anciens chômeurs qui n'ont pas reçu de réponse positive à leur candidature. Voilà, ça c'était une petite chose que je voulais dire. Maintenant, il y a autre chose que j'ai entendu ce matin sur une radio. Il va y avoir en septembre 2008, à Versailles, un dîner pour riches, qui va être organisé par notamment 17 grands chefs de France et d'ailleurs, pour soutenir la fondation Alzheimer. Alors le prix du repas est de 22 000 €. 22 000 € un repas, soit 55 RMI ou 22 SMIG pour un repas. Alors moi je me suis dit, bah écoutez, peut-être qu'on pourrait s'inviter. Bon, s'inviter de façon pacifique, hein. On pourrait y aller par exemple et puis faire un pique-nique devant la porte du restaurant, un pique-nique citoyen. Voilà, c'est une proposition.
Bonjour Daniel, est-ce que vous avez entendu que dans les premiers régularisés, au coup par coup, au cas par cas bien sûr, hein, se trouvent des immigrés qui travaillent dans un restaurant de l'île de la Jatte, d'où notre omniprésident était un habitué il n'y a pas si longtemps que ça. Étonnant, non? C'est Annette de Paris.
Bonjour, chers amis. Je suis une auditrice modeste et géniale, et de plus, rome, c'est-à-dire vegane. Bon, ce qui n'est pas très bien vu en ce moment, sauf chez vous. Alors, je voulais vous demander si vous étiez au courant de l'histoire des brins de muguet. Dimanche dernier, il y a des petits gens du voyage, puisque la France ne reconnaît pas les minorités ethniques, enfin, disons des petits manouches, qui s'introduisent dans un parc privé, puis qui cueillent quelques brins de muguet en se disant, bon, si on les vend, ça va peut-être pouvoir améliorer l'ordinaire qui, pour les manouches, on le sait, n'est jamais très très gras. Seulement, voilà, un gardien survient et il tire au fusil. Pend une balle dans l'épaule, et voilà un des jeunes manouches à l'hôpital. Alors, il faut vous dire quand même un détail intéressant, c'est que cette propriété superbe, à Asnières-sur-Oise, n'appartient pas à n'importe qui, mais à la famille de Rothschild. Alors, pour des Rothschild, vu la fortune qu'ils ont, on comprend que dérober 3 brins de muguet, ça soit très grave. Moi, à mon sens, ça aurait été un pauvre pépère retraité de la SNCF. C'était peut-être un peu plus embêtant, mais je sais pas si le pépère, il aurait tiré dans le... Et puis l'épaule, c'est tout près de l'artère carotide. Alors voilà, la vie d'un jeune manouche, ça pèse beaucoup moins lourd qu'un brin de muguet chez les Rothschild. No comment, comme on dit à la télé. No comment.
Salut, auditeurs de France Inter. Ici, c'est le repère des amis de la base, si j'y suis, de Metz. Metz 68. Ça te dit quelque chose? Alors, ce mardi 6 mai, on s'y met. Eh oui, c'est aussi les 2 ans de notre repère à Metz. Alors, toi qui as vécu Metz 68 en Lorraine, ou ailleurs, viens à 18h témoigner de ces événements au Café de la Renaissance, à 2 pas de la place des Charons, à Metz 68. Allez, ciao!
Oui, bonjour tout le monde, bonjour Daniel, Laurent de Saint-Malo. Voilà, je téléphone pour vous signaler qu'une manifestation aura lieu samedi à Rennes à partir de 14h et le thème de cette manifestation est la démission de Sarkozy. Voilà, nous voulons manifester pour que le message se fasse bien entendre en espérant que cette petite manifestation on fera des émules et puis que voilà, qu'au niveau national que ça aboutisse quand même à qu'on montre notre mécontentement.
Oh vas-y, le taser il fait aussi micro et caméra. Ah vas-y, il est super sophistiqué le pistolet comment ça s'appelle? Taser. Le taser il fait caméra et micro. Voilà, fantastique hein. Ah, je vais arrêter le MP3, le caméscope. Je vais prendre le taser, il fait micro et caméra. Ouais, il fait micro et caméra, il se met sous un timbre et il filme et il espionne le facteur. Oh, vas-y, c'est charmé.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique, Anne-Cécile Robert, Serge Halimi, Maurice Lemoine, Dominique Bayard, Pierre Dome et Aurel, le dessinateur.
Mes chers amis, j'en ai vu dans ma carrière politique des victoires. Mais la victoire n'est belle que si elle est généreuse. La victoire, ce n'est pas la revanche. La victoire, c'est l'ouverture. La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier. Je serai le président de la République de tous les Français, sans exception.
Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu.
Rien que du bleu, rien que du bleu.
C'est une chanson qui dit qu'on va mettre le paquet. Hein ? Vous répétez après moi, c'est le refrain. Et il y a un moment, je dis, et on va mettre le P, et on va mettre le P, et on va mettre le A, et on va mettre le Q. Ah, c'est pas mal.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Alors, Anne-Cécile Robert, on va commencer par vous. Sur ce diplôme de mai, et on va commencer par un anniversaire, celui de l'élection de notre président de la République, le plus bas dans les sondages, moins que George Bush, hein, je crois quand même. Bon, bilan, peut-être pas perspective, mais bilan. Là, vous intéressez quand même à un phénomène qui nous concerne, c'est-à-dire que on a vu le succès de Nicolas Sarkozy il y a un an, ensuite on a vu les municipales. On voit maintenant la chute du président dans les sondages de popularité. Mais on se demande à travers tout ça, où sommes-nous, nous? Est-ce qu'on est bien représenté par ces gens-là? Est-ce que les Français peuvent se considérer comme représentés? Est-ce qu'on peut se voir dans ce miroir politique?
Beaucoup de gens se demandent en effet comment quelqu'un comme Nicolas Sarkozy a-t-il pu devenir président de la République en France. Et certains le comparent à Silvio Berlusconi, qui n'est pas forcément un modèle de grand démocrate pour l'Europe. D'ailleurs, j'ai discuté l'autre fois avec Philippe Golub qui me disait, mais imaginons une conversation entre Berlusconi, Sarkozy et George Bush. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Alors c'est vrai qu'on se demande comment des gens de
le problème de montre, de chasse, d'épouse.
De leurs épouses, voilà, ils comparent leurs femmes peut-être. Bon. Donc tout ça pour dire qu'il y a un problème de représentation politique en Europe et en France particulièrement, puisque des personnalités quand même relativement médiocres parviennent à des postes de responsabilité très importants. Et face à cette question, il y a un discours un petit peu inquiétant qui est les électeurs font n'importe quoi. D'ailleurs, une année ils votent Sarkozy, l'année d'après ils votent socialiste. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, et c'est l'objet de l'analyse que j'ai essayé de faire dans le diplôme, c'est comment est-ce que des gens comme Sarkozy ou comme Berlusconi arrivent à être candidats? Parce qu'en fait, les électeurs se prononcent par rapport à une offre politique sur laquelle ils ont très peu de maîtrise. Et dans le cas de Nicolas Sarkozy en France, on s'aperçoit que tout le système institutionnel, même les médias, ont favorisé sa candidature. Il y a une espèce de battage qui a fait que cette candidature a été validée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, entre les deux tours, finalement, tous les observateurs trouvaient que c'était le retour du clivage droite-gauche, que c'était intéressant, etc. En fait, on s'aperçoit que les partis politiques, notamment les deux grands, l'UMP et le PS, ne sélectionnent plus que les gens les plus conformes, les gens qui vont finalement valider le système, donner raison au système. Peu importe, au fond, si ces gens représentent vraiment la réalité de la société. Et tout ça est amplifié par la logique de l'élection présidentielle en France, qui personnalise beaucoup les débats, et qui caricature les enjeux. On se plaint beaucoup de la pipolisation, mais c'est assez inévitable dans un système qui sélectionne des gens qui pensent à peu près la même chose sur tout, et qu'il faut bien trouver un moyen de départager. Et comment les départager? Mais on va prendre des observations sur leur caractère, sur leur personnalité, voire sur leur vie privée. Donc plutôt que de critiquer les électeurs, il faut réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'il y a toute une partie de la société française qui n'est plus représentée, le monde ouvrier, et même des sensibilités politiques. Il n'y a plus de gaullistes, par exemple. la réalité de la société française n'est absolument plus représentée. Mais ça ne veut pas dire, et c'est pour ça que je ne suis pas personnellement pessimiste, ça ne veut pas dire que la société française est morte. Au contraire, on a le sentiment qu'elle vit beaucoup. Il y a eu le 29 mai de 2005, où plus de 90% des élus avaient voté oui au traité européen, 55% des Français votent, ce qui était déjà un très grand signe de crise politique. Et à chaque fois que la société envoie des signes au système politique, comme le 29 mai ou le CPE, le système politique se ferme. C'est-à-dire les grands partis politiques auraient dû tenir compte du 29 mai, par exemple, et présenter quelqu'un qui avait voté non ou qui...
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le candidat du 29 mai ? On n'a pas eu ce candidat du 29 mai. Pourquoi est-ce que ce courant n'a pas été mis en avant dans les municipales ?
On a la logique du bipartisme déjà. On est dans une logique soutenue par les médias et les commentateurs politiques qui est de dire il faut bipolariser la vie politique française, c'est la modernité, c'est comme ça que fonctionnent les grandes démocraties, n'est-ce pas, occidentales. Et donc on veut créer deux mastodontes. Mais le problème, c'est quand on crée deux mastodontes, ces mastodontes politiques doivent à un moment donné trancher leurs candidats. Si vous regardez les candidats des partis, ils doivent représenter l'opinion dominante. Et parfois, c'est le curseur tombe un petit peu à droite. Si vous prenez les questions européennes, quand il y avait eu le référendum à l'intérieur du PS, le oui l'avait emporté de justesse. Mais le problème, c'est que ça donne un candidat du oui au PS et qu'il y a pratiquement, même s'il y a 45%, 46% je crois, des gens du PS qui ont voté non. Donc le bipartisme a pour effet automatique de faire disparaître de la représentation politique une partie de la sensibilité ou de l'expression sociale du pays. Et comme tout ça tourne en faveur des intérêts dominants, eh bien toute la machinerie des intérêts dominants se met en place pour soutenir le bipartisme. D'où les éditos des grands médias français à la veille du premier tour pour obliger les électeurs à dire qu'il est absolument impératif qu'il y ait absolument un duel PS-UMP au second tour. Ça, c'est impensable autrement. Mais au fond, pourquoi ? Surtout que le troisième homme dont il était question, François Bayrou, j'ai pas très bien compris sa campagne d'ailleurs, mais il n'était pas extraordinairement révolutionnaire, il n'y avait pas de quoi avoir peur. Et bien pourtant, toute la machinerie, y compris sondagière et médiatique, s'est mis en route pour écarter un type qui était finalement tout à fait dans le ton.
Ça, j'ai mis des réflexions.
Apporter un élément supplémentaire, c'est que Anne-Cécile a dit que le système politique ne sélectionnait plus que des gens conformes. J'ajouterais à condition qu'ils se présentent eux-mêmes comme non conformes. Parce qu'il y a aussi l'imposture qui consiste à se présenter comme différent. C'est le Sarkozy « j'ai changé », le discours sur la rupture. C'est Ségolène Royal qui dit « ah oui, mais moi, je ne suis pas un des éléphants ». En d'autres termes, en votant pour moi, vous allez avoir un changement majeur. Alors qu'effectivement, comme Anne-Cécile l'a rappelé, quand on pense aux orientations fondamentales de ces deux candidats, là qu'on vient d'évoquer, elles n'étaient différentes ni au moment du 29 mai, ni sur les grandes orientations de politique étrangère française, ni même sur des questions sociales aussi sensibles que la réforme des retraites.
C'est la touche rebelle.
Voilà, il faut de plus en plus se présenter comme un candidat rebelle, différent, etc., original. C'est d'ailleurs ce qu'on vient de vivre à Londres il y a quelques jours avec ce candidat conservateur, bon, qui défend les orientations qui ne sont pas d'une innovation particulière, mais on insiste sur le fait qu'il a une crinière blonde, qu'il est provocateur, un peu comme Berlusconi en Italie. Il est difficile maintenant de promouvoir des hommes politiques qui défendent des conceptions traditionnelles s'ils ne le font pas avec une espèce de verbiage et de gestuelle qui a l'air d'être très original et en rupture avec les codes dominants.
Yeah.
Des Somaliens, des femmes, des enfants qui s'en prennent aux commerçants de Mogadiscio. Des milliers de personnes ont envahi les rues de la capitale somalienne aujourd'hui pour protester contre la flambée des prix des denrées alimentaires. Des soldats ont ouvert le feu après l'explosion d'une grenade. Au moins 5 manifestants ont été tués.
On continue avec le diplôme du mois de mai, avec l'édito de Serge Halimi, FMI, FIM, FMI, fin. On se demande toujours si les spéculateurs sont des affameurs. Enfin, moi, j'ai la réponse. Là, c'est évident. Les spéculateurs sont des affameurs. Littéralement, actuellement, la spéculation sur les produits alimentaires de base à travers le monde ont fait que la Banque mondiale annonçait que 33 pays entraient dans des cycles de famine. Alors, c'est pas la seule cause. C'est une des causes. Et la cause est majeure, peut-on dire, même s'il y a une circonstance de plusieurs causes, c'est quand même les politiques menées depuis des années par la Banque mondiale, par l'OMC, et régulièrement fustigées par le monde diplomatique.
Oui, on pourrait dire depuis des décennies, puisqu'il s'agit des politiques qu'on a définies sous le vocable de consensus de Washington et qui imposaient aux pays du monde de livrer en quelque sorte leur destin au commerce international au nom de la loi de la spécialisation déjà évoquée par Ricardo il y a quelques siècles, et qui disait il faut que le Japon ne fasse que des jouets à bon marché, que dans tel pays on ne fasse que du coton, que dans tel pays on ne s'occupe que de poissons, et que tous ces pays ensuite commercent, ce qui d'ailleurs les fera s'entendre mieux les uns avec les autres et supprimera tout risque de guerre. Il y a eu cette espèce d'idéologie naïve. Bon, on en voit les résultats. Il y a des tas de pays qui ont sacrifié leur agriculture vivrière, qui se sont livrés au commerce international et qui découvrent maintenant, c'est le cas pour les pays pauvres, que leur facture alimentaire a augmenté de 56% en un an. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment...
Sachant que les ménages, dans la plupart de ces pays pauvres, consacrent 80% de leurs revenus
à la facture alimentaire, ce qui n'est pas le cas des pays riches où évidemment la part du budget consacrée à l'alimentation est beaucoup plus faible. Alors on a évoqué toutes les causes que vous connaissez, parce que c'est toujours la faute à pas de chance, quoi. C'est les agrocarburants, c'est la sécheresse en Australie et j'en passe. Mais il y a quand même une responsabilité qu'il faut signaler davantage, qui est à mon avis la responsabilité de ces politiques qui ont été mises en œuvre et qui ont été imposées à un certain nombre de pays. Alors le paradoxe, c'est qu'au moment même où la FAO réclame 500 millions de dollars en disant, pour faire la soudure, l'aide alimentaire compte tenu de l'augmentation du prix des céréales, il me faut 500 millions de dollars, elle passe en quelque sorte avec sa sébile et elle attend de recueillir une obole. Et aux dernières nouvelles, elle n'avait même pas obtenu ces 500 millions de dollars. Alors évidemment, quand on donne des chiffres, les gens sont perdus. Il faut rappeler que les 500 millions de dollars réclamés par la FAO ne représentent qu'un peu plus de 10% de la somme gagnée l'année dernière par une seule personne qui a spéculé sur le marché des hedge funds, qui a gagné 3 milliards 700 millions de dollars. Donc vous voyez, il y a la FAO qui, pour des dizaines de millions d'affamés, réclame 500 millions de dollars, et on dit, c'est énorme, machin, etc., au moment précis où une personne en a gagné 3 milliards 700 millions en spéculant l'année dernière sur les hedge funds. Alors les hedge funds, que font-ils? Eh bien justement, certains d'entre eux spéculent sur les marchés à terme, sur les marchés agricoles, et donc ont gagné des fortunes colossales, profitant de cette hausse du prix des céréales. En d'autres termes, ce que certains gagnent, d'autres le perdent, ça on le savait déjà, mais à travers cette crise, on voit précisément qui gagne et qui perd.
Et il faut saluer au passage Jean Ziegler, qui depuis des années dit et répète ce que vous dites avec toute la véhémence qu'on lui connaît. Mais enfin, c'était bel et bien ça, son analyse tient la route. Il a été interviewé de tous les côtés et très souvent copié. C'est assez formidable de voir des pavés entiers de ces articles repris un peu partout.
Que son analyse tient la route, il faut préciser que son analyse n'a pas fini de tenir la route. Parce que naturellement, quels sont les remèdes proposés à l'heure actuelle? Là, vous avez une crise alimentaire, on se dit, quels sont les remèdes proposés? Eh bien, récemment, le week-end dernier, dans les Échos, vous aviez l'ambassadeur des États-Unis qui disait, vous avez cette crise alimentaire, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir davantage recours aux exportations et aux importations, au commerce international. Il faut développer les OGM pour résoudre le problème de manque précisément de céréales.
Oui, ça tombe bien pour les...
Et si, évidemment, si vous produisez davantage de céréales, le prix des céréales, c'est la loi de l'offre et de la demande, va baisser. Et enfin, il faut mettre fin aux distorsions commerciales. En d'autres termes, cette crise qui a révélé quand même la faillite d'un modèle agricole libéral trouvera son remède dans des politiques qui sont encore plus libérales.
Haïti crie famine. Comme partout dans le monde, le cours des céréales a flambé. Les gâteaux d'argile coûtent 10 fois moins cher qu'une portion de riz.
En une semaine, le sac de riz a quasiment doublé. L'essence en est à sa 3e hausse en moins de 2 mois.
Cette jeune fille vient de manger un gâteau de boue, un mélange d'argile et d'eau croupie.
L'envolée des prix a provoqué plusieurs altercations entre marchands et clients ce mardi.
Selon le Programme alimentaire mondial, en Haïti, 6 habitants sur 10 n'arrivent plus à se procurer de la nourriture. Alors ils mangent ce qu'ils trouvent, des gâteaux d'argile.
En Asie, en Afrique et en Amérique latine, l'augmentation des coûts, comme le prix du riz par exemple, a déjà provoqué des manifestations et même des émeutes.
Des émeutes de la faim qui ont coûté son poste au Premier ministre samedi dernier.
Déjà aujourd'hui, l'ONU se prépare au pire. Selon l'Organisation des Nations Unies, les émeutes de la faim vont s'intensifier et le monde va vivre de grands exodes de population à la recherche de nourriture. Mais pour aller où ?
Ok, on continue avec le diplôme du mois de mai, et là on va parler des céréales. C'est la suite de ce qu'on vient d'entendre là, par la bouche de Serge Halimi, Dominique Bayard, les céréales.
Oui, alors ce qui s'est passé sur le marché des céréales depuis l'été 2007, c'est un peu le résultat de ce que Serge Halimi a présenté, donc une politique de dérégulation totale de l'agriculture. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des petits incidents climatiques, un euphémisme, puisqu'il y a quand même eu 2 sécheresses de suite en Australie. L'Australie est un très grand pays exportateur de blé. Pas mal d'aléas climatiques également en Europe, des problèmes d'eau, trop d'eau, pas assez aux États-Unis, et on a vu le cours des céréales s'envoler au cours de l'été 2007. Alors à ce moment-là, les négociants, les opérateurs, tous ceux qui sont présents sur le marché, sur les marchés américains, sur les marchés européens, se réjouissent, se disent eh bien tant mieux, parce que finalement ça fait des années que les prix agricoles étaient extrêmement bas, donc si ça monte, c'est pas si mal. Et puis en fait, cette hausse, elle a continué dans des proportions tout à fait inattendues, du moins qui n'étaient pas prévues par ceux qui suivent ces marchés quotidiennement. Quand je parle de ceux qui suivent ces marchés, ce sont les analystes qui travaillent pour les banques, les analystes qui travaillent pour les maisons des grands négociants, donc des gens qui sont soucieux de tirer le meilleur parti possible de ces marchés. Et sur le marché américain, par exemple, pour citer un chiffre, le cours du blé passe de 200 dollars à 400 $ la tonne entre le mois de mai et le mois de septembre 2007. On pense que ça va s'arrêter. Pas du tout. Ça repart de plus belle pendant l'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est qu'il y a l'arrivée sur ces marchés à terme de nouveaux opérateurs, des gens qui n'étaient pas là il y a 5 ou 6 ans. Ce sont les fonds. Les fonds qui placent leur argent parce que les marchés d'actions ne sont plus profitables. Donc il faut qu'ils trouvent de nouveaux instruments, de nouveaux vecteurs pour gagner plus d'argent. Et ils s'intéressent de près aux matières premières, puisque les matières premières n'ont cessé de monter ces dernières années. On en parle souvent avec le développement de la Chine, avec aussi la chute du dollar, puisqu'il y a aussi, il faut savoir, un lien aussi entre la dégringolade du dollar qui sert l'économie américaine, mais qui dessert les marchés de matières premières, puisque les matières premières sont libellées en dollars. Donc à chaque fois que le billet vert s'affaiblit, eh bien, leur prix augmente. Alors pour revenir à cette arrivée des fonds, ils amplifient considérablement les mouvements, parce que eux, ils sont là pour gagner de l'argent. C'est-à-dire le fait de savoir qu'il y a beaucoup de blé ou peu, finalement, ça ne les intéresse pas. Ils s'intéressent en revanche aux analyses dites chartistes, c'est-à-dire des analyses très techniques qui sont calculées par des mathématiciens, des financiers, des experts, qui montrent que les cours vont encore grimper. Donc eux se placent à ce moment-là sur ces marchés et ils amplifient terriblement les mouvements, et ça a donc continué pendant tout l'hiver. Ce que je voudrais quand même signaler, c'est que depuis quelques semaines, on a tous les gouvernants du monde qui sont très étonnés. Ah ben on n'avait pas vu, ben on savait pas. En fait, c'est une évolution qui était latente depuis plus d'une année, et donc l'absence de politique publique en matière d'agriculture, mais aussi des mouvements démographiques qui étaient tout à fait sensibles, puisque il y a de plus en plus d'habitants sur la planète, avec des revenus de plus en plus plus important, donc des gens qui se nourrissent mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, qui consomment plus de viande, donc cela aussi entraîne une augmentation de la demande de céréales. Mais si vous voulez, il y a cette évolution démographique qui se ressent à travers l'évolution des bilans de production de céréales, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les stocks s'amenuisent depuis 10 ans. Donc, parce que l'offre est inférieure à la demande de céréales.
En un bondi color humo que al trocén se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana le batió un punga la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Y ya frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. En un bondi color humo.
La base de Suisse. Escuchen la base de Suisse.
On continue avec le diplôme du mois de mai avec Maurice Lemoine. On a envie de. On a des tas de questions à vous poser, mon cher Maurice.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe actuellement en Bolivie, dans la région de Santa Cruz?
La Bolivie. Bolivie, bon, vous avez remarqué que c'est un discours un peu convenu, mais qu'effectivement la gauche est en train de s'installer petit à petit partout en Amérique du Sud, puisque dimanche dernier encore, le Paraguay, après 61 ans de régime d'un parti au pouvoir, le Parti Colorado, a basculé à gauche ou au centre-gauche, on verra ensuite la politique du candidat Fernando Lugo. Il y a donc un vrai problème stratégique pour les États-Unis. Le maillon faible, c'est la Bolivie. C'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine, c'est un pays de 8,5 millions d'habitants, un tout petit pays, avec de grosses difficultés, avec un clivage, on va dire, ethnique, hein, même si j'aime pas beaucoup ce mot, entre une majorité d'indigènes qui ont toujours été écartés du pouvoir, qui ont toujours été écartés de la vie sociale du pays, et puis une minorité blanche assez riche, qu'on trouve en particulier dans la région de Santa Cruz. La région de Santa Cruz, c'est la région dans laquelle sont extraits les hydrocarbures, hein, le gaz, le pétrole, qui sont ce sur quoi compte le gouvernement d'Evo Morales pour sortir le pays de la misère dans laquelle il est jeté. Pour lutter contre Evo Morales, dont le projet ne plaît pas à tout le monde, la région de Santa Cruz vient d'organiser hier, le 4 mai, un référendum d'autonomie. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'en France, demain, le département des Hauts-de-Seine, qui, vous savez, est le département le plus riche de France, décide qu'il en a marre de partager l'argent avec le reste de la France, hein, à travers les impôts, à travers... Et que donc, il organise de son propre chef un référendum, et puis qu'à 82%, les habitants des Hauts-de-Seine disent, bon, voilà, nous, maintenant, on prend notre autonomie par rapport à la France.
Enfin, c'est ce dont rêvent certains landes allemands, par exemple la Bavière, rêvent d'indépendance. Hein.
C'est donc ce qui est en train de se passer en Bolivie, avec un risque très sérieux, parce qu'effectivement, 90% des habitants de Santa Cruz ont voté pour l'autonomie. Ils vont être suivis sans doute rapidement par quatre ou trois autres régions, Tarija, Beni, Pando. Ce référendum a été organisé totalement en dehors de la Constitution. C'est-à-dire qu'il est complètement illégal. Donc c'est pas un camouflet pour Evo Morales. Je veux dire, c'est simplement une sédition d'une région qui est en train de jouer avec la politique du pire, parce que on a un risque très sérieux en Bolivie. C'est que cette population indigène qui a été écartée du pouvoir pendant 500 ans, hein, pour reprendre une image facile, qui a élu un président indigène, qui attend de ce président qui d'ailleurs n'a pas une politique spécialement indigéniste, contrairement à ce qu'on prétend souvent, attend de lui une sortie de la crise sociale terrible. Si demain, cette région qui concentre toute la richesse du pays fait quasiment sécession, on va, je pense, à la guerre civile en Bolivie. Bien. Alors ça a un avantage pour Washington, c'est que d'abord, ça va...
Non, c'est un avantage pour Washington.
Ça va casser une dynamique qui est en train, démocratiquement, de s'installer en Amérique latine. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va falloir que les pays de la région se définissent. On va avoir des contradictions entre les pays, parce que le Brésil, après tout, n'est pas spécialement favorable à ce qu'a fait Evo Morales, c'est-à-dire l'augmentation du prix du gaz, puisque le Brésil dépend jusqu'à aujourd'hui des importations de gaz de la Bolivie. Le Chili, de la même manière...
Rival ancestral.
Voilà. Donc, on va créer un problème qui va, d'une certaine manière, détourner un certain nombre de gouvernements de leur tâche prioritaire, qui est l'amélioration de la situation sociale, en Bolivie. Olivier Evo Morales, il va mettre ce qui s'est passé, je le rappelle, en 2002-2003 au Venezuela, en créant artificiellement une crise. On a détourné le gouvernement de Chavez à l'époque des problèmes sociaux pour l'obliger à se concentrer sur la survie du régime, d'une certaine manière. Donc, la Bolivie, de mon point de vue, est la tentative la plus sérieuse de déstabiliser la gauche latino-américaine depuis le coup d'État contre Chavez, la tentative de coup d'État contre Chavez. En Bolivie, il y a quand même à craindre des troubles très très sérieux. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion de ce référendum, puisque des partisans d'Evo Morales à Santa Cruz ont brûlé des urnes, ont attaqué les opposants à coups de pierre, ce qui s'est traduit à la télévision hier soir sur Euronews par les partisans d'Evo Morales empêchent la démocratie en Bolivie, alors qu'on est face à un référendum totalement illégal.
Toute la journée de dimanche, des partisans du président ont tout fait pour empêcher le bon déroulement de la journée électorale. Ici, dans la banlieue de Santa Cruz, ils ont tenté de prendre d'assaut un bureau de vote.
On continue avec le monde diplomatique de ce mois de mai. Là, on est un petit peu surpris, d'abord par les illustrations. Ça change un peu, pour une fois. C'est pas les photos ou les reproductions habituelles de tableaux plus ou moins abscons, dont le Diplo s'est fait une spécialité. C'est des dessins de dessinateurs, comme on en voit dans d'autres journaux, même si ceux-ci sont particulièrement compétents et bien dessinés, d'abord, c'est une chose. Et ensuite, on renoue là avec une tradition, c'en est une, du reportage dessiné. Et les dessins, on les doit à un certain Aurel, dont on va essayer d'en savoir plus. Et puis, il y a quand même un petit peu de texte autour, il faut bien accompagner les dessins. Et le texte, c'est de Pierre Dôme. Bon, voilà pour les deux oiseaux qui ont commis cette double page du Diplo. Mais le thème, surtout, est tout à fait étonnant. Ça devrait être une banalité, ça devrait faire partie des choses qu'on dit, des idées reçues. Eh bien non, il s'agit des pieds noirs. Et depuis 1962, on vit tous avec l'idée que les pieds noirs ont été chassés, menacés et ont quitté la mort dans l'âme et la valise au bout du bras. Leur belle Algérie avec tout ce que nous savons de tristesse et de fracture. Or, ce que nous disent ces deux jeunes gens, c'est que il y a un certain nombre de pieds noirs qui sont restés en Algérie. Et ils sont allés les voir et ils les ont dessinés. Ils ont dessiné aussi le cadre de leur vie d'aujourd'hui. Et ils nous en parlent maintenant. Pierre Dôme, pourquoi être allé en Algérie maintenant pour ce sujet ?
Eh ben, j'ai été le premier surpris, moi, par cette histoire. C'était il y a un an et demi, j'étais en Algérie pour un autre reportage sur ces pieds noirs qui sont en France et qui retournent pour la première fois de leur vie en Algérie. Mmh. Et là, je rencontre le consul de France à Alger et qui, au détour de la conversation, me glisse qu'il y a encore plusieurs milliers de pieds noirs en Algérie aujourd'hui, en 2007. Et alors là, j'ai fait des yeux énormes et... J'ai noté ça dans un petit coin de mes tablettes et je me suis dit, tiens, voilà un sujet absolument incroyable. Il y aurait eu des pieds noirs qui sont restés et la preuve, c'est qu'il en reste encore. J'ai un peu cherché et je suis tombé sur ce chiffre hallucinant de 200 000 Européens, Français, pieds noirs, enfin comme vous voulez les appeler, 200 000 qui étaient encore présents en janvier 1963, c'est-à-dire bien après cette année 62 qui était censée, dans la mythologie pieds noirs qu'on nous raconte depuis des années, qui était censée avoir vu le départ de tous les pieds noirs d'Algérie, le million de pieds noirs d'Algérie. Eh bien non.
Et alors pourquoi sont-ils restés ?
L'éventail des motivations, des situations particulières est très large. Il y a d'un côté les Européens et les Juifs qui se sont engagés du côté du FLN. Mais finalement, ils ne représentent qu'une petite partie des gens qui sont restés, puisqu'il y a un peu de tout qui sont restés. Il y a des médecins, il y a des garagistes, des plombiers, il y a des représentants de commerce. Il y a un peu de tout, des gens qui sont pas du tout spécialement d'anciens communistes, engagés, anticoloniaux, etc. Je suis même tombé, ça m'a halluciné, à Orange sur un type qui est vachement à droite, encore aujourd'hui Algérie française, avec des liens plus ou moins obscurs avec l'OAS, mais qui n'a, par exemple, jamais été inquiété. Parce que c'est bien ça la trouvaille, en quelque sorte, que j'ai faite, c'est que tous ces gens n'ont pas du tout été inquiétés en 62. Il n'y avait pas du tout cette menace de la valise ou le cercueil. Et donc, ça m'a permis, en fait, de reprendre, de retravailler, de contester, finalement, cette image de l'année 62 en Algérie où, une fois l'indépendance acquise, tous les méchants arabes se seraient précipités, un couteau pointu à la main, sous la gorge de tous les Européens, en leur disant « vous foutez le camp, sinon on vous tue ».
Alors ils n'ont pas été inquiétés en 62, mais depuis, comment vivent-ils ? Est-ce qu'ils, d'abord, ils sont toujours identifiés comme des pieds noirs ? Comment ont-ils vécu depuis ?
Alors, le début des années 90, avec la décennie, ce qu'on appelle la décennie noire en Algérie, a marqué une nouvelle vague de départ vers la France. Et sinon, il y en a un certain nombre, et c'est ceux que j'ai rencontrés, qui se sont en effet tout à fait intégrés dans la société algérienne. Beaucoup ont pris la nationalité algérienne, et aujourd'hui, d'ailleurs, un certain nombre refusent de se faire appeler ou pieds noirs ou européens. Ils veulent se faire appeler algériens, éventuellement d'origine européenne. Donc j'en profite pour signaler que à partir de ce reportage, un débat va avoir lieu à Paris, lundi 26 mai à 19h, au grand auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, avec le sujet, c'est la question de quoi les pieds noirs ont-ils eu peur en 1962 ? Le débat sera organisé par la Ligue des droits de l'homme et par l'Association des amis du monde diplomatique. Et donc, pour répondre aux questions de l'assistance, il y aura, outre mon humble personne, Gilles Manseron, l'historien Benjamin Stora, Mohamed Harbi, et le célèbre dessinateur Aurel fera des dessins en direct dans la salle.
Bon, allez, on va finir avec le diplôme de ce mois de mai. Il y a bien d'autres choses, hein, bien évidemment. Mais là, on va être tous consolés, puisque on va tous devenir riches. On croyait, nous, jusque-là, qu'il fallait s'employer à ce que les pauvres deviennent moins pauvres, ce à quoi s'emploient d'ailleurs la plupart des pauvres. Il faut bien reconnaître les choses. Par contre, les riches n'ont pas tendance à vouloir devenir un peu moins riches. Mais là, on est consolé aujourd'hui, en tout cas à travers ce papier, c'est qu'est-ce qu'un pauvre ? Ben, c'est un futur riche, quoi, en somme. Hein ? Mathias Roux.
Alors, je ne sais pas, pour l'instant, ce dont essaie de nous convaincre la presse, c'est que même en consommant des ersatz de luxe, on peut déjà, parce que les publicitaires et maintenant les patrons de presse appellent des consommations statutaires, toucher un peu de la vie qui nous attend plus tard, à savoir justement la richesse et notamment l'entrée dans le club des millionnaires qui ne cesse d'être de plus en plus ouverte pour un plus grand nombre de gens.
Ça, le coup de nous faire briller, de nous promettre des fortunes, ça date pas d'hier quand même.
Non, ça date pas d'hier, mais aujourd'hui il y a une omniprésence et surtout une recrudescence du thème de l'argent qui se décline selon plusieurs aspects et qui, ces trois aspects conjugués, laisse penser que désormais la fortune est à portée de bourse déjà et à portée aussi d'entreprises individuelles. Alors ça commence déjà par la multiplication des suppléments et des cahiers spéciaux consacrés au luxe. Ça continue aussi par des reportages de plus en plus récurrents et longs sur le mode de vie des plus riches qui vont des consommations à leur forme de sociabilité. Et enfin, ça se termine par la chronique mondaine des people, dont des people fortunés, ça va de soi, dont le paysage se recompose autour de la figure du grand milliardaire en France. Alors en effet, ces phénomènes ne sont pas inédits. Alors auparavant, il y a toujours eu, notamment avant 2004, c'est-à-dire la période étudiée, il y a toujours eu des grandes enquêtes sur les excentricités et les prodigalités des nouveaux parvenus. Sous la forme de ce qu'on appelle des marronniers. On mettait à l'honneur notamment l'hiver les frasques des oligarques russes à Courchevel et leur manière de se baigner dans des bains de champagne, ou l'été les us et coutumes des jet-setters tropéziens. Mais maintenant, c'est en quelque sorte toute l'année que l'on a le droit à cette actualité de l'argent. L'argent devient un thème en tant que tel, traité pour lui-même et qui n'est plus abordé indirectement au détour d'une enquête sur des univers sociaux spécifiques, comme auparavant, où par exemple, pour parler de l'argent, on utilisait le thème des ruses fiscales, on faisait un reportage des chroniques mondaines sur des soirées à vocation caritative à Monaco ou à Paris ou ailleurs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce genre d'alibi ou de prétexte pour parler de l'argent et la manière dont ceux qui sont riches gagnent de plus en plus d'argent.
Là, ce que vous dites aussi, c'est qu'il y avait une articulation entre le sportif le plus riche, le patron le plus riche, etc. Maintenant, c'est le riche tout court, comme une espèce particulière, une sorte d'Olympe. Une Olympe qui nous est promise, à laquelle nous pouvons parvenir. Comment ?
Alors, pour devenir riche, il faut sans doute se lancer dans le monde de la finance, où justement, comme le fait remarquer un éditorialiste américain, le rêve des capitalistes a été exaucé, c'est-à-dire maintenant, on peut arriver à faire de l'argent qu'avec de l'argent. En France, l'un des précurseurs de ce type d'accroissement de richesse, c'est bien entendu le raideur Bolloré, pourtant honoré par notre nouveau président, qui, par des coups de bourse, arrive à justement nous montrer comment on peut devenir riche du jour au lendemain.
Mais est-ce que chacun y croit ? Est-ce que vraiment les gens y croient ? Est-ce qu'ils sont aussi naïfs et niais que ça face à tout ça ? Il n'y a aucune résistance des uns et des autres.
Alors, si on écoute les publicitaires et notamment les patrons de presse, à commencer par le patron, le PDG du groupe de publication Condé, l'attirance pour le luxe n'est ni une question de revenus, ni une question d'âge, ce dont on pourrait douter, puisqu'a priori, le luxe suppose de pouvoir accorder de l'argent et des choses superflues. Mais une représentante d'un groupement d'intérêts de marque du luxe, le comité Colbert, résout la contradiction en disant que le luxe ne concerne plus une élite, mais la part élitaire de chacun d'entre nous. Ça veut dire que même les bas revenus peuvent, par justement l'achat de marques, et l'achat de marques de luxe bas de gamme, si je puis dire, déjà commencer à posséder des objets donc dits à vocation statutaire, pour se distinguer de la masse, mais aussi pour y retourner, et par ce biais, donc, commencer à entreapercevoir le monde du luxe et de l'argent.
Et voilà, merci à l'équipe du Monde Diplomatique. Bien d'autres papiers dans ce numéro du mois de mai. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Céline Bonhomme et Antoine Viossa, Yann Chouka et Koyen Guyen ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, qui attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.